Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 3 février, que d'eau, trop d'eau. La Seine devrait monter jusqu'à 4,50 m aujourd'hui. Un pic de crue est attendu aussi dans tout le sud-ouest. Les cumuls sont quand même assez historiques, nous dira une hydrologue. Et ce n'est pas fini, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Christelle.
17 départements sont encore en vigilance orange aux crues.
Exactement, entre le sud-ouest, le nord et l'est. Alors la perturbation de ce matin, elle s'étend du sud-Aquitaine aux Alpes et au Jura avec des pluies plus marquées sur les massifs de l'est, de la neige des 2000 mètres sur les Alpes du Nord. Attention parce que le risque d'avalanche est fort. À l'arrière, donc au nord, un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, mais encore des averses, voire un coup de tonnerre sur l'extrême nord. Et puis surtout, beaucoup, beaucoup de vent. Des rafales jusqu'à 90 km/h attendues dans la capitale. Et plus au sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, un temps plus lumineux. Tout ça sous des températures encore très douces, de 9 à 18 degrés.
L'État n'a pas fait ce qu'il fallait dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, la justice administrative le juge responsable de manquement. C'est le fameux dossier baptisé l'affaire du siècle. Une promesse, les Français qui le souhaitent se verront proposer un vaccin d'ici la fin de l'été. Promesse d'Emmanuel Macron, pourra-t-il la tenir? 4 sites de production vont être utilisés sur le sol français. L'acteur Richard Berry dément vivement les accusations d'inceste de sa fille aînée. Cette dernière a porté plainte. Une enquête a été ouverte la semaine dernière. Et puis dans RTL Midi, on ira s'oxygéner tout à l'heure dans le massif du Jura, où la saison de ski de fond est déjà exceptionnelle. La question du jour sur RTL.fr, un vaccin pour tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Est-ce que vous y croyez? Eh bien, il y a 68% de non, 25% de oui. Vous êtes pour le moins dubitatif. Parlons-en, 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, ce sera évidemment notre première question. La deuxième, elle est surnommée, vous l'avez dit, l'affaire du siècle. L'État est responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne? Appelez-nous au 32-10. Et puis les salariés pourront prochainement déjeuner à leur bureau, pourquoi pas pendant votre édition, Christelle, pour limiter les possibilités de contamination au coronavirus. Un décret va être publié ces prochains jours et jusqu'à aujourd'hui, a priori, le Code du travail interdisait actuellement donc aux entreprises de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, même s'il y avait parfois quelques dérogations. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Des trombes d'eau encore et encore. Le pic des crues est attendu aujourd'hui dans le sud-ouest. À Paris, la Seine pourrait monter jusqu'à 4,50 m. En juin 2016, elle avait dépassé les 6 mètres. Et on retrouve Vincent Serrano, quai de l'Hôtel de Ville. Les pieds dans l'eau, Vincent.
À quelques mètres, oui, seulement, d'une aire de jeu à moitié immergée. Un signe, pour vous dire, est passé juste devant moi il y a quelques minutes. Et tout autour, ces badauds qui viennent regarder, observer la montée des eaux. Et pour Jacqueline, prendre des photos.
Impressionnant. Égoïstement, je trouve ça joli. Mais bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Parce que je pense notamment à ce restaurant qui se retrouve inondé.
Ce qui fait dire à d'autres riverains comme Jean-Claude qu'avec le niveau de l'eau, c'est aussi une forme de colère qui monte chez eux.
C'est la vitesse à laquelle ça va. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, que ça se répète et qu'on se pose à chaque fois, il faut faire quelque chose, mais c'est chaque fois un petit peu plus grave, donc non, désolant, je dirais. D'autres problèmes plus urgents, je sais pas.
Et puis vous avez aussi sur ce quai de l'Hôtel de Ville des péniches à l'arrêt comme celle de Maxime qui a installé une passerelle de fortune pour y accéder.
Alors là, c'est des pavés, le banc, des fûts de bière bien pleins pour qu'ils soient lestés et qu'on ne tombe pas.
Maxime, on a pris d'autres précautions, je vois.
Oui, on n'a pas délesté les affaires les plus lourdes pour pas que ces pots de fleurs ou ce matériel partent ensuite dans la Seine. Ça nous handicape pas tant que ça monte pas plus haut et qu'on n'a pas l'électricité qui est coupée.
Maxime, qui a empilé son mobilier au dernier étage de sa péniche, n'espère qu'une chose, pouvoir le redescendre, au plus vite.
Vincent Serrano, quai de l'Hôtel de Ville, dans la capitale. Au-delà de la carte postale, on a vu aussi des bateaux rompre leurs amarres sous l'effet de la crue du Lot du côté de Douai et s'encastrer dans des ponts ou encore des évacuations en Corrèze à Argentat. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Emma Aziza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue et présidente de MAYAN, le centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Est-ce un hiver atypique ?
Oui, c'est un hiver atypique parce qu'on a effectivement des cumuls de précipitations sur les mois de décembre et janvier qui sont assez exceptionnels, bien que ce soit des pluies qui soient quand même mesurées, c'est-à-dire que ce sont des toutes petites pluies qui arrivent, mais par contre le nombre de jours de pluie est extrêmement conséquent et lié principalement à toutes ces dépressions qui sont arrivées au fur et à mesure sur la France et qui sont venues arroser l'intégralité des grands bassins versants. On voit que la Charente, la Sèvre, la Garonne, la Dour, le Tarn sont concernés. Ça, c'est sur le côté Grand Ouest. Mais par contre, on a aussi à l'Est la Saône, on a le Nord qui est concerné. Donc, on voit vraiment que c'est toute la métropole qui est concernée par des abats d'eau extrêmement importants. Non pas, si vous voulez, pour l'instant, sur le Nord et l'Ouest, de manière exceptionnelle au niveau des débits, puisqu'on est quand même sur des crues hivernales assez classiques, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le Grand Ouest. Mais par contre, effectivement, on voit que on a ces débits qui arrivent et puis sur des territoires complètement saturés, gorgés d'eau.
Oui, donc il y a un ruissellement là maintenant. C'est ça le problème.
En fait, voilà, il y a une logique de bassin versant, c'est-à-dire que toutes les gouttes d'eau qui tombent vont à un moment donné ruisseler et finir par rejoindre le réseau hydrographique avec les affluents qui vont ensuite se jeter dans le fleuve principal. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qui est plutôt positif, c'est que ça prend du temps sur le plan hydrologique. Donc en fait, on a le temps de voir venir. Ce sont des crues moyennes à lentes. Par contre, ce ne sont pas les grandes crues du sud-est de la France qui peuvent se déployer en quelques heures. Donc on a le temps d'anticiper et d'agir. Par contre, on est sur un état de saturation des territoires. Les sols sont complètement pleins. Ils ne peuvent pas accueillir d'eau supplémentaire. Donc tout ce ruissellement est un apport supplémentaire à ces crues. Et la différence, c'est que tant que ça reste une crue et que c'est concentré à l'intérieur du cours d'eau, ça fonctionne. On arrive à maîtriser. C'est à partir du moment où il y a une surverse sur les berges que là, on va parler d'inondations et donc d'enjeux humains et matériels.
Mais on se souvient, il y a 2 ans, on avait beaucoup parlé de projets de bassin de rétention en amont de la Seine, par exemple, pour éviter que Paris soit inondé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus ?
Alors, les grands lacs réservoirs ont une fonction qui est extrêmement efficace de ce que l'on appelle l'écrêtement des crues. C'est-à-dire qu'elles vont confisquer une partie du débit qu'elles vont retenir en amont. D'ailleurs, on est dans une situation assez favorable puisque la plupart de ces grands bassins étaient extrêmement, très très bas après l'été qu'on avait passé très sec. Ces pluies ont permis de faire remonter le niveau de ces bassins, mais il reste quand même aujourd'hui un volume disponible pour la protection contre les crues qui est à peu près 365 millions de mètres cubes.
D'accord, donc on a de quoi voir venir encore. Juste une dernière question rapidement, pardon Emma Aziza. Ça veut dire que même en cas de sécheresse cet été, là les nappes phréatiques sont pleines, les agriculteurs ne manqueront pas d'eau?
Ben pas du tout. En fait, on a pensé ça...
J'ai bien fait de la poser, donc, cette question.
On a pensé ça en 2018, puisqu'on avait eu les grandes crues de la Seine pendant 3 semaines. On avait des nappes qui étaient excédentaires. Cet hiver, on avait 30% d'excédent de remplissage des nappes, et ça nous a pas empêché d'avoir des étés sévères, parce que à partir d'un certain moment, durant le printemps, on est soumis à des situations anticycloniques répétées et qui vont... amener des paramètres aggravants avec eux, c'est-à-dire des températures exceptionnelles, des taux d'ensoleillement importants, des vents très secs et puis accompagnés avec des phases de canicule qui peuvent très vite faire basculer la situation dans des états de sécheresse qu'on n'avait jamais encore connus.
Donc on ne peut pas préjuger de ce qui se passera cet été. Merci beaucoup Emma Aziza pour ce décryptage, merci. Elle était surnommée l'affaire du siècle des ONG soutenues par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens, attaquait l'État pour manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce matin, la justice administrative a reconnu l'existence d'un préjudice écologique et accorde 1 euro au titre de préjudice moral. Le tribunal se donne encore 2 mois avant d'envisager d'éventuelles mesures plus contraignantes. Mais pour les plaignants, c'est déjà une victoire historique, comme le souligne Cécilia Rinaudot, porte-parole de l'association Notre Affaire à Tous.
C'est un moment assez émouvant. C'est vraiment un jour qui va faire date dans l'histoire, parce que c'est le premier procès climat en France. Et pour la première fois, le juge, il reconnaît la preuve scientifique. Il constate les effets, mais aussi les dangers du changement climatique. Pour la première fois aussi, le juge, il établit un lien de causalité entre l'inaction de l'État et le surplus des émissions de gaz à effet de serre. Et la faute que constitue l'inaction de l'État et ses conséquences, elles sont reconnues. Donc dans les prochains mois, on espère que le juge, il constatera que l'action de l'État, elle est encore insuffisante. Et ça, c'est que le début. Le tribunal administratif, aujourd'hui, il a donné un signal très très fort, en disant que l'urgence climatique, elle est là, que l'accélération du changement climatique, elle impose à l'État d'agir dans sa fonction de régulateur et d'investisseur, et qu'il a un rôle central à jouer.
Cécilia Rinaudot avec Mourad Djabari. Une pause et dans un instant, on va voir si Emmanuel Macron peut tenir sa promesse sur les vaccins.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
À tous les Français adultes qui le souhaitent se verront proposer un vaccin d'ici la fin de l'été. Dans une interview surprise accordée à TF1, Emmanuel Macron a repris la main hier soir face aux critiques sur la gestion de l'approvisionnement et sur la lenteur de la vaccination. Alors on va faire le point avec vous, Sophie Orange, d'abord sur la production. Le président a promis qu'elle débuterait sur le sol français à la fin du mois. 4 sites vont être utilisés.
Alors le premier a démarré la production courant mars, c'est Recif Farm en Indre-et-Loire. Il mettra en flacon le vaccin Moderna. Ensuite, ce sera courant avril autour de Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre de produire le vaccin de Pfizer-BioNTech. Puis, encore plus hypothétique en mai, CureVac a choisi Fareva et ses deux sites de Pau et de Val-de-Reuil. Enfin, à partir de juillet, Sanofi va mettre en flacon le vaccin de son concurrent Pfizer-BioNTech, mais ça, ce sera en Allemagne. Donc, au total, 4 sites, un potentiel de centaines de millions de doses pour le deuxième semestre. Mais attention, hein, c'est pour toute l'Europe, évidemment. Ce ne sont pas des doses que pour les Français, bien sûr.
On parle aussi beaucoup des vaccins russes et chinois, mais est-ce qu'on connaît vraiment leur efficacité?
Alors, pour le vaccin russe, pas de données complètes, mais une seule publication scientifique dans le Lancet, revue très sérieuse hier. Résultat, efficacité supérieure à 90% contre les formes symptomatiques. Aucun blocage de la France, il correspond aux normes scientifiques, mais il faudra ensuite le produire. Pas de précommande, en tout cas, pour le moment, de la part de l'Europe. Rien non plus pour les vaccins chinois, dont l'efficacité varie selon les premiers chiffres rendus publics ces dernières semaines. Mais là non plus, pas d'opposition de principe pour ne pas l'accepter.
Tous les Français qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été. Le président peut-il vraiment tenir sa promesse, Sophie ?
Ambitieux. Si on regarde les chiffres, rien que les chiffres, le ministère de la Santé attend 78 millions de doses de la part de 5 laboratoires d'ici la fin du mois de juin, la plupart à 2 doses. Il faut rajouter les vaccins qui arriveront en juillet et en août. Il ne faut pas un seul grain de sable dans la production s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de contretemps. Ça fait beaucoup de si pour tenir cette promesse.
Merci Sophie. On va pouvoir désormais déjeuner au bureau, ce qui était jusqu'à présent interdit. Un décret va être publié dans les prochains jours, comme l'explique Régis Bac de la Direction Générale du Travail.
Vous comme moi, il nous arrive d'ores et déjà de déjeuner malheureusement devant notre ordinateur et qu'un certain nombre de personnes aussi peuvent être amenées à prendre un sandwich assis à une table dans leurs locaux de travail. Et donc le décret va effectivement ouvrir cette possibilité. Il faut garantir systématiquement la santé et la sécurité des salariés lorsqu'ils déjeunent dans ces conditions. Exemple concret, mais c'est une caricature, mais vous n'allez pas prendre votre sandwich sur un baril de produits chimiques.
Régis Bac, oui, quand même. Ça paraît du bon sens. Avec Anaïs Bouissou, et que vous déjeuniez au bureau ou pas, la validité des tickets restaurants 2020 qui couraient jusqu'à fin février sera rallongée jusqu'au 31 août. Ils peuvent être utilisés pour les repas emportés ou pour les livraisons. Les femmes seules auront-elles accès à la procréation médicalement assistée? Les sénateurs, les républicains ne le souhaitent pas. Le texte sur la PMA est examiné en ce moment en seconde lecture. Et hier, lors d'une soirée assez rocambolesque, la droite l'a soigneusement détricoté, Vincent Derosier.
Oui, le Sénat a fait en quelque sorte un bond d'un an en arrière. Un pataquès qui s'est noué en deux temps. D'abord à cause d'un amendement voté à main levée dans la confusion juste avant la pause dîner des sénateurs. Amendement qui ouvre la possibilité de la PMA post-mortem, c'est-à-dire après le décès du conjoint. La droite fulmine et contre-attaque une fois l'estomac plein. Les sénateurs décident d'amender le texte et d'exclure les femmes célibataires. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, déroule les arguments habituels.
Celui qui prend tous les risques sur la PMA sans père, c'est bien sûr l'enfant.
La tension monte, l'extension de la PMA est finalement rejetée et le secrétaire d'État à la famille, Adrien Taquet, constate amer le naufrage.
Je vais vous dire à quel point je suis un peu abasourdi par ce qui vient de se passer. Suppression de l'article 1, suppression de l'article 2. C'est un peu un grand chelem jusqu'à présent.
Alors, pour autant, il faut bien préciser, Christelle, que ce vote n'est pas définitif. La majorité aura le dernier mot, mais c'est du temps de perdu, notamment pour les femmes seules. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, demande que ce texte soit adopté avant l'été.
Vincent Derosier. Dans un instant, l'acteur Richard Berry accusé d'inceste par sa fille aînée.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Elle a porté plainte pour inceste quand elle était mineure. Colline accuse son père, l'acteur Richard Berry. Comme dans toutes ses affaires, c'est parole contre parole. Elle l'accuse. Il dément vigoureusement, évoquant des accusations immondes. Une enquête a été ouverte la semaine dernière auprès de la Brigade des mineurs, Guillaume Chiez.
Oui, dans sa plainte, Colline Berry décrit des faits qui auraient eu lieu il y a 37 ans. À l'époque, elle est âgée de 8 ans. Son père s'est séparé de sa mère et vit en couple avec la chanteuse Jan Manson. Un couple qui, selon elle, l'aurait violée et agressée sexuellement pendant 2 années. Pour l'heure, les enquêteurs de la Brigade des mineurs n'ont auditionné personne. Richard Berry, lui, a pris publiquement la parole hier soir pour contester ces accusations. Le comédien a publié un long texte. « Je dément de toutes mes forces », écrit-il. Richard Berry explique que ces accusations ont démarré il y a 7 ans et qu'elles ont été relancées par la publication du livre de Camille Kouchner sur une affaire d'inceste le mois dernier. Malgré la très forte probabilité que les faits soient prescrits, le comédien a également écrit au procureur de Paris pour réclamer une enquête sur les dires de sa fille, afin, dit-il, d'établir définitivement la vérité.
Guillaume Chiez, au procès du petit Tony, cet enfant de 3 ans battu à mort par le compagnon de sa mère, la cour d'assises de la Marne a entendu ce matin le témoignage du père biologique. Et on se rend compte à travers son récit, Anne Le Hennaff, que l'enfant n'avait aucune chance de s'en sortir, il n'y avait aucune bienveillance autour de lui.
Anthony ne se souvient pas très bien de l'âge qu'il avait quand son fils est né, 17 ou 18 ans. J'étais trop jeune, mais elle voulait le garder, soupire-t-il en sweat à capuche noire, les cheveux gominés ramenés en arrière. Puis elle m'a quitté parce que je jouais trop aux jeux vidéo. Quelques semaines avant la mort de Tony, il remarque qu'il a des bleus, il lui demande ce qui lui est arrivé, et l'enfant répond « c'est le copain à maman ». Et vous avez fait quoi ? Rien. Allez savoir si c'est des bêtises ou pas. Est-ce que vous étiez à son premier jour d'école ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'étais beaucoup occupée à ce moment. Et Caroline, la mère, elle était comment ? C'est une fille fragile, elle a été battue, je ne sais pas par qui, pas par moi. Violée aussi ? Ah oui, par quelqu'un de sa famille. Elle avait 18 ans, mais elle n'a pas voulu porter plainte. Des photos de Tony sont alors diffusées sur les écrans. Le petit garçon blond sourit sur chacune d'elles. Sur son banc, Caroline, la mère, tremble, s'empourpre et se met à pleurer dans son masque. Derrière, l'accusée baisse la tête. Elle aurait dû faire quelque chose, poursuit le père, m'en parler. Je connaissais des gens à l'époque, je l'aurais récupéré. Mon fils, c'était tout pour moi, comme ma fille à l'heure actuelle.
Récit Anne Le Hennaff au Palais de Justice de Reims. Et si on partait à la montagne ? Les vacances d'hiver commencent ce week-end. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions. Vous l'avez entendu hier dans RTL Midi. Les remontées mécaniques sont fermées, mais la montagne est prête à vous accueillir. Et nous sommes en ligne avec Nicolas Gauthorbe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'association Espace Nordique Jurassien. La neige est bonne ?
Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'humidité, mais beaucoup de sites nordiques restent ouverts. On a eu un excellent début d'hiver, mais là on a eu en moyenne altitude pas mal de pluie sur les derniers jours. Donc ça met un petit peu à mal le manteau neigeux.
Bon, c'est un peu moins bien, mais quand même, les clients ont déjà répondu présents dans les stations de l'Ain, du Doubs et du Jura ?
Oui, exact. On a fait un début d'hiver assez exceptionnel à tout point de vue. Évidemment, on avait un très bon enneigement en début de saison, dès début décembre. Donc ça a permis des très belles conditions. Et pour tous les sites nordiques du massif du Jura, quelle que soit l'altitude, donc ça c'était vraiment un beau facteur qui donnait envie au public. Et les gens avaient vraiment envie de pratiquer des activités de pleine nature en ces temps compliqués. Donc la possibilité d'ouvrir les sites nordiques a vraiment... offert beaucoup de public sur les sites nordiques du massif du Jura.
Est-ce que vous avez déjà connu un tel engouement pour le ski de fond ?
Alors, c'est difficile à dire. Vraiment, dans ces conditions-là, c'est quand même assez rare et on n'a pas, sur les 5-10 ans en arrière, on n'a pas de si belles saisons en mémoire, puisqu'on a quand même bénéficié de beaucoup de reports de gens qui voulaient pratiquer des activités de ski de descente et qui, compte tenu de la fermeture des remontées mécaniques, sont venus faire des activités nordiques, du ski de fond, de la raquette sur les sites nordiques, et beaucoup de luges également.
Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver en station avec justement le ski de fond et les raquettes ?
Alors oui, économiquement, on a les domaines nordiques représentent sur le massif du Jura en matière de fréquentation à peu près la moitié par rapport au ski de descente. Sur le massif du Jura, le nordique, ça représente entre 450 000 et 500 000 entrées. En chiffre d'affaires, pour les stations, ça représente à peu près en moyenne 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est modeste par rapport au ski de descente. Par contre, un pratiquant qui fait du ski nordique dépense à peu près la même chose dans le territoire que un pratiquant qui fait du ski de descente, que du ski de fond.
Oui, mais ça coûte beaucoup moins cher. Sans forfait, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher.
L'accès aux pistes coûte bien moins cher. En nordique, on est à peu près autour de 8 à 10 euros. En ski de descente sur le massif du Jura, on est plutôt autour d'une trentaine d'euros. Par contre, les dépenses en matière de restauration, alors en ce moment, malheureusement, on les a pas, mais en matière de cours de ski, de dépenses dans les commerces et autres, restent à peu près les mêmes. Et on sait que sur en nordique, pour 1 euro dépensé environ dans l'accès aux pistes, les personnes dépensent sur le territoire, dans l'économie locale, environ 14 euros. Ce sont les retombées un petit peu sur les territoires. Donc, même si les acteurs travaillent un peu moins, effectivement, compte tenu de la fermeture des remontées mécaniques, il y a quand même une activité touristique dans les territoires du massif du Jura qui est relativement bonne, en tout cas jusqu'à maintenant. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est ce qui va se passer pendant les vacances de février. La majorité des sites nordiques qui ont des lits touristiques, le gros de leur fréquentation, ils le font pendant les vacances de février. Mmh. Et là, tout va dépendre des décisions qui seront prises par rapport au contexte sanitaire dans les semaines qui viennent.
Et pour l'instant, on ne peut pas savoir. Dites-moi, les stations de moyenne montagne, elles sont quand même aussi menacées par le réchauffement climatique. Météo France a fait des prévisions assez alarmantes en début de semaine avec des températures qui pourraient augmenter de 4 degrés d'ici à 2100 si la lutte contre le réchauffement climatique ne s'accélère pas. Comment vous voyez l'avenir ?
Alors, on travaille au niveau national à ce sujet-là avec l'association qui nous regroupe Nordique France, qui est l'association de regroupement de l'ensemble du réseau des acteurs nordiques au niveau français. Et on est clairement en ce moment sur des réflexions d'adaptation. L'enjeu n'est pas seulement de se dire il faut que nos territoires soient des activités quatre saisons en été et en hiver, mais l'enjeu c'est surtout de pouvoir se dire en hiver, quand on a la neige, on propose.
Ah, on a un petit problème de liaison, pardon. On a perdu Nicolas Gottorb, qui était directeur de l'association Espace Nordique Jurassien. On a bien compris que la saison de ski de fond avait bien démarré. Merci en tout cas. La disparition d'une figure du rugby, l'ancien international de Dax, Jean-Pierre Bastia, vient de mourir à l'âge de 71 ans des suites d'un accident vasculaire. Bastia, c'est le rugby des années 70. Son association avec Jean-Pierre Rive et Jean-Claude Scrella avait permis au 15 de France de remporter le Grand Chelem 1977.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et on parle football aujourd'hui. Nous partons à Strasbourg, où le club essaie à tout prix de maintenir le lien avec ses 17 000 supporters privés de stade. Ils sont appelés un par un au téléphone, Yannick Collant.
Oui, Christelle, on connaissait les appels canicules pour prendre des nouvelles des personnes vulnérables, pour des supporters déprimés de ne pas aller au stade. C'est une première. Le Racing Club de Strasbourg a en effet installé un standard avec une dizaine de lignes pour appeler ses 17 000 abonnés. 500 coups de fil par jour. Tous les employés du club doivent s'y mettre, y compris les joueurs. Le club l'a montré dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, avec des supporters évidemment un peu surpris d'avoir les joueurs au bout du fil.
Oui, allô.
Oui, allô, bonjour Nicolas.
Bonjour.
C'est Jean-Eude Aoulou du Racing.
Comment ?
C'est Jean-Eude Aoulou du Racing.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Bédéli. C'est Adrien Thomasson du Racing, j'espère que je vous dérange pas.
Non, pas du tout. On a hâte de revenir à la maison.
Ah bah écoutez, c'était aussi le principe de mon appel. C'était pour vous dire qu'on a hâte de vous revoir parce que vous nous manquez beaucoup.
Voilà, alors le Racing Club de Strasbourg qui a évidemment une relation particulière avec ses supporters qui ne l'ont jamais lâché, même lorsqu'il était tombé en 5e division. Un petit coup de fil donc, en attendant de les retrouver à la méno pour que le speaker puisse à nouveau leur lancer après chaque but.
C'est sûr, ça fait rêver, hein, un stade avec des supporters. Notez que Strasbourg reçoit Brest ce soir. Et ça contraste quand même singulièrement cette histoire avec l'OM et cette ambiance ubuesque où l'entraîneur André Villas-Boas a été démis de ses fonctions après avoir démissionné. Notez que Marseille se déplace à Lens ce soir. Pascal Pro, vous dialoguez avec les auditeurs dans 5 minutes.
J'ai envie de parler de l'affaire Richard Berry. Parce que je trouve que c'est intéressant. J'ai eu tout à l'heure Alexandre Arcadi et Gérard Darmon, qui sont amis avec Richard Berry et qui effectivement témoignent d'un Richard Berry aujourd'hui qui est dévasté et qui ne pouvait pas imaginer une seconde que les faits qu'on lui reproche soient vrais. Et l'un et l'autre, effectivement, le connaissent intimement. Et j'ai envie d'en parler parce que soit les faits sont avérés, c'est abominable, soit les faits ne sont pas avérés et c'est abominable. Et c'est, ça nous pose nous-mêmes une question média, puisque forcément cet homme aujourd'hui... les gens en parlent, c'est une figure française, Richard Berry, qui est dans le cinéma depuis plus de 40 ans.
Donc on verra comment les auditeurs, si d'abord ils ont envie ou pas d'évoquer cette affaire, et on pourra en parler ensemble. On pourra évidemment revenir sur Emmanuel Macron et la possibilité de vaccin. L'affaire du siècle, bien sûr, cette tribunal administratif qui a reconnu l'existence d'un préjudice écologique, et puis on pourra donc déjeuner au bureau, vous aurez le droit pendant ce journal.
Ça va nous changer la vie. N'empêche, parce que c'était un peu compliqué. Donc ce sera plus simple désormais pour nous aussi.
Bien sûr.
La météo, Peggy Broche. Vous en êtes sans doute rendu compte, si vous êtes dans la moitié nord, ça décoiffe.
Ah oui, complètement, et ça va continuer cet après-midi, Christelle, avec des rafales entre 70 et même 90 km/h à l'intérieur des terres. Et un ciel de traîne sur cette large partie nord du pays, donc entre nuages, éclaircies, mais encore quelques averses, des averses plus fréquentes d'ailleurs entre la Normandie, le bassin parisien et les Ardennes, et même un coup de tonnerre possible vers le nord Pas-de-Calais. La perturbation de ce matin, elle se trouve actuellement entre les Landes, le Massif central, jusqu'aux Alpes et au Jura, avec des averses plus marqué sur les frontières de l'Est, de la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes du Nord où le risque d'avalanche est fort, donc soyez prudents. Et puis au sud de cette zone, un temps plus lumineux entre les Pyrénées, la Méditerranée, même en remontant jusqu'à la région PACA et au nord des Alpes, avec malgré tout quelques nuages vers le Languedoc et les côtes varoises, tout ça sous des températures encore très douces. On est souvent 6 degrés au-dessus des normales, jusqu'à 18 à Perpignan cet après-midi comme à Nîmes, 17 degrés à Ajaccio et Toulouse, 15 à Bordeaux et Lyon, 13 à Paris, Tours, Nancy et Nantes, 12 à Lille, 9 à Cherbourg. Puis je rappelle quand même qu'il y a toujours 17 départements en vigilance orange crue entre le sud-ouest, le nord et l'est.
Bon, et demain, une accalmie enfin ?
Oui, moins de vent, moins de pluie. Bon, mais quand même une perturbation. Peu active, très peu active même, donc ça veut dire très peu de pluie, sous un ciel bien gris entre le Pays Basque, le Limousin le matin, jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté l'après-midi. Au nord de cette zone, beaucoup de nuages, mais quelques éclaircies, des éclaircies plus larges dans l'après-midi et quelques averses aussi. Et puis au sud de cette zone, toujours entre les Pyrénées, la région PACA jusqu'aux Alpes, là un ciel bien voilé toute la journée, mais sec, et la douceur sera encore de mise, même si les températures seront en légère baisse. Les maximales seront comprises entre 10 et 17 degrés.
Oui, ça reste quand même incroyablement doux. Merci Peggy, à suivre. Le rappel des titres sur RTL, il va être 13h.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Tous vaccinés avant le 21 septembre, est-ce que vous y croyez ? Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Monsieur Pro.
Oui ou non ?
Non, j'y crois pas du tout, oui. Non.
Ah bon ?
Ah non. Ah,
vous êtes méfiant. Christelle, le rappel des titres.
Face à l'épidémie, les contrôles se multiplient. Les gendarmes du Val-d'Oise ont interrompu hier un mariage réunissant plusieurs centaines de convives sur une propriété privée à Nerville-la-Forêt, malgré les restrictions sanitaires. Il y avait 300 à 400 personnes, des membres de la communauté des gens du voyage. L'acteur Richard Berry dément fermement les accusations d'inceste portées contre lui par sa fille aînée. Cette dernière a porté plainte. Une enquête a été ouverte auprès de la brigade des mineurs la semaine dernière. En Birmanie, les autorités qui viennent de renverser Aung San Suu Kyi l'accusent d'avoir enfreint une règle commerciale, violé une loi sur les importations-exportations, moyennant quoi elle est en détention provisoire pour 2 semaines. À Rome, on attend de savoir qui va former un nouveau gouvernement aujourd'hui, très probablement Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne.